Moi, quand je suis arrivé en Russie, là, j'ai fait une petite allocution qui a un peu circulé. J'ai dit, voilà, il faut que Poutine prenne le conscience qu'il est le catéchone et qu'il doit se hisser au niveau de cette destinée.
Mais leur sens, la fonction de catéchon en Occident est toujours contestée par les papes.
Et donc, dans la vision occidentale, c'est qui aujourd'hui a repris le flambeau du catéchone? Et là, on se dit, ça ne peut être que la Russie de Poutine.
Nous avons ici le décret de Poutine 809, qui est appelé le décret ou la loi de la défense de l'État des valeurs traditionnelles.
Aujourd'hui, la Russie a le pouvoir enfin, Poutine a le pouvoir que n'avait pas De Gaulle pour faire cette proposition multipolaire. Et d'ailleurs, elle marche, ça s'appelle les BRICS. Mais ça aussi, c'est quelque chose de tragique pour nous. On nous empêche de dialoguer avec nos cousins culturels qui sont les Russes.
C'est intéressant ce que, à propos de puissance maritime et terrestre, je crois que dans le monde multipolaire, il y a peut-être le plus grand changement dès le début de la tradition géopolitique, c'est l'idée que j'appelle Heartland distribué. Ce qu'il n'y a plus seulement un Heartland, un sens terrestre, comme l'était le cas dans l'Empire russe, dans l'Empire soviétique, quand le monde était géopolitiquement bipolaire. Aujourd'hui, cette multipolarité demande certaines révisions.
Oui, c'est parce que les fondamentaux de la géopolitique, c'est la bipolarité, hein.
Oui,
C'est
oui.
maritime,
Oui.
continental. Et aujourd'hui, on serait plus du quelque chose
Oui.
de à trois
Plus que,
dimensions.
oui.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que la puissance maritime et la puissance terrestre deviennent quelque chose local et non pas global. Par exemple, il y a la puissance maritime et la puissance terrestre en Chine. Donc, Xi Jinping représente un continent, l'entité, l'axe continental, et socialiste en même temps, souverain et traditionnel. Et il y a aussi certains segments, certaines parties de la société chinoise qui étaient déjà incorporées dans le globalisme. C'est certaines oligarchies chinoises qui existent. Elles n'ont pas pouvoir, mais c'est disons la force assez sérieuse dans la société chinoise qui représente la puissance maritime intérieure. La même chose en Russie, nos globalistes, nos oligarches qui sont en faveur du gouvernement mondial et les choses comme ça. Ils sont comme les globalistes français ou américains. La même chose, je veux dire, aux États-Unis. Trump représente la puissance terrestre et démocrate, le Parti démocratique représente la puissance maritime. Et ce qui est important, ce qui est aujourd'hui en Europe, théoriquement, devrait être aussi le pôle terrestre, continentaliste, franco-allemand, peut-être plus italien aussi,
franco-allemand-italien, c'est...
et même en Europe orientale, représenté comme par Orban, Fico, peut-être même par certains Polonais plus traditionalistes, plus conservateurs. Mais ce pôle-là est radicalement écrasé par
l'Union européenne, c'est son statut
qui est
aussi.
l'organisation précisément maritime. Et même sans les Anglais, on attend des Atlantistes proprement européens qui représentent aujourd'hui le pouvoir, la dictature, à mon avis. Mais ce qui est très important, à mon avis, peut-être je me trompe, mais il faut quand même essayer de créer ce pôle terrestre, Heartland, européen, ouest européen, pour combattre le pouvoir de l'Union européenne, non pas seulement en faveur de la France ou de l'Allemagne, non pas pour le souverainisme, mais pour l'européanisme avec l'autre sens géopolitique.
Et nous, le gros problème qu'on a, c'est qu'il y a une relative défaite des néoconservateurs aux États-Unis, et ils sont tous réfugiés en Europe, parce qu'en réalité, au moment de l'effondrement de l'URSS, il n'y a plus eu la double offre pour les élites. Et il y a eu tout le processus des Young Global Leaders. Et aujourd'hui, tous les chefs d'État qui sont en place en Union européenne sont des types qui ont été recrutés au moment de l'effondrement de l'URSS par les néoconservateurs américains. Et c'est ce qui explique les décisions systématiquement contraires aux intérêts, notamment dans les pays scandinaves. En fait, nous n'avons en Union européenne que des traîtres à nos propres pays. Et le combat, nous, qu'on doit mener, c'est pour ça que moi, j'avais fait un slogan qui était « Poutine vite », c'était de se dire que pour qu'on se débarrasse de nos élites néoconservatrices, ça se fera pas. On ne pourra pas le faire par une révolution intérieure parce qu'on n'a plus la force, mais il faudra que la donne continentale soit changée par Poutine. Parce que le jour où Poutine a gagné la guerre d'Ukraine et qu'on intègre la donne, que c'est lui qui détermine ce que c'est que la nouvelle direction du continent européen, je pense que les élites de tous ces pays de l'Union européenne vont changer. Vous savez, comme ça s'appelle la collaboration, hein, d'un seul coup, on va les voir se transformer ou changer. Et c'est pour ça que ce que je disais, la guerre d'Ukraine, c'est pas juste la question du Donbass et c'est une guerre où se joue le salut de l'Europe pour moi. Parce que si on veut prendre un précédent historique, pour qu'il y ait eu la révolution nationale de Pétain, qu'on peut critiquer, mais c'est d'abord passé par ce qu'on appelle la divine surprise, c'est-à-dire qu'il a fallu perdre une guerre face à l'Allemagne pour que puisse s'opérer quelque chose qui était déjà une révolution conservatrice, un peu, même si ça s'est mal fini et ça n'a pas été fait correctement. Mais aujourd'hui, la certitude, c'est que, contrairement à ce que disent une certaine extrême droite française, nous n'avons plus les moyens, nous, en France, de nous libérer par nous-mêmes. On doit faire la résistance, comme faisait De Gaulle à Londres, mais il faut la victoire de Poutine sur l'Ukraine. Sinon, nous, on n'a plus la force. Hein.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce qui est intéressant, aujourd'hui, l'euro a la chance extraordinaire de se libérer de cette dictature parce que il y a seulement Poutine à l'Est, mais aussi il y a Trump à
Oui,
l'Ouest.
c'est bien sûr.
Donc, on peut réorganiser le front continental pan-européen européen avec, disons, sans prendre parti pour Poutine contre
Oui,
Trump,
oui.
pour Trump contre Poutine,
Oui, parce
parce
qu'on
que...
a, on a, on a quand même deux ennemis des néoconservateurs. On a
Oui,
un ennemi en Amérique et
et
l'ennemi.
globaliste.
Oui,
Ben
oui.
oui.
Bah, de toute façon, les néoconservateurs, c'est néoconservateurs par la droite, globalistes par la
Par la
gauche. Mais en
gauche.
réalité,
Ouais,
c'est
la même chose.
moi, je dis souvent, le diable passe souvent par la gauche parce que ça se voit moins, on le voit moins venir. Mais de toute façon, ce sont deux stratégies complémentaires.
Tout à
On
fait.
avait un grand philosophe marxiste chez nous que j'ai beaucoup promu après sa mort, qui s'appelle Michel Kluskar, qui disait que le génie qui s'est imposé en Occident, c'est ce qu'il appelait le libéralisme libertaire, c'est-à-dire le libertaire au service du libéral. Et c'est vrai qui est très contre-intuitif parce qu'on se dit libertaire, révolution.
Non.
Et d'ailleurs, ça a donné mai 68, qui est la première révolution colorée qu'on a subie, nous, hein, c'est-à-dire faire triompher l'Amérique impériale en chassant De Gaulle, par des jeunes qui criaient US go home à cause de la guerre du Vietnam. C'était d'une incroyable intelligence et perversité stratégique. Et en fait, c'est le laboratoire sur lequel on a pu réfléchir, nous, dès les débuts des années 70, le danger du libéralisme libertaire, hein, c'est-à-dire de se servir des gauchistes pour faire gagner
Oui,
les impérialistes.
extrême gauche libérale.
Oui, c'était les idiots utiles de
Oui.
l'époque moderne.
Mais c'est un marxisme culturel, comme vous
Oui,
avez dit.
qui est anti-marxiste profondément.
Hein. C'est très intéressant ce que pour le marxisme culturel, aujourd'hui, la lutte des classes n'a à voir rien, absolument.
Ah oui, de toute façon, ils sont sur le genre.
Le genre seulement, l'idéologie de genre, disons les migrants, et non pas l'égalité, c'est DEI, diversité. Égalité et inclusivité. Donc,
C'est ce que moi, dans mon dernier livre, j'appelle ça l'égalitarisme fou, c'est-à-dire l'égalitarisme sans aucun substrat. Parce qu'en fait, l'idée historique de l'égalité, c'était l'égalité sociale, c'est-à-dire rompre avec le monde traditionnel de l'inégalité radicale de la naissance, qui était la noblesse, et puis la révélation divine, c'était la monarchie théocratique. Donc l'égalitarisme n'avait qu'un sens qui était un sens social strict. Et petit à petit, la gauche traître, chez nous c'est 1983, hein, c'est Mitterrand avec Fabius, qu'on appelle la deuxième gauche, qui est en fait une nouvelle droite, c'est d'abandonner l'égalitarisme social, qui est une trahison libérale de l'élection de François Mitterrand en glissant vers ce qu'on appelle le sociétal, qui est de l'égalitarisme non social. Ça coûte rien au capital et ça fait joli. Alors c'est les jeunes. Donc c'est l'égalitarisme des jeunes par rapport aux vieux, ce qui veut rien dire parce que c'est pas des catégories sociales. L'égalité des femmes par rapport aux hommes, mais sur des critères qui ne sont pas des critères sérieux d'égalité des salaires, etc. Et petit à petit, on est allé vers la liberté, enfin la théorie du genre, en fait, qui est une extension de cette trahison de l'égalité sociale par l'égalitarisme fou, qui est au début un égalitarisme sociétal et qui maintenant c'est tout est égal, c'est-à-dire je peux décréter l'égalité par mon imagination, notamment je décide que je suis une femme alors que je suis un homme biologique, etc. Et ça, c'est le mensonge et la trahison de la gauche sociale authentique qui a amené cette folie. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est une trahison du progressisme social qui amène à la fin, comme un golem, une folie qui est devenue incontrôlable, parce que même je crois que les manipulateurs d'origine des années 80, ils ont perdu le contrôle. On le voit aujourd'hui, notamment que les problèmes qu'a Trump avec les LGBT pro-palestiniens dans les campus. Vous voyez, ça leur, parce qu'en réalité, si on remonte derrière, normalement, ceux qui ont validé le LGBT sont plutôt pro-israéliens en réalité au départ. Hein. Il y a une conversion. Et pourtant aujourd'hui ils ont ce problème qu'on appelle le golem. Hein. C'est-à-dire que à la marge il y a des choses qui leur échappent. Hein. C'est-à-dire comme nous aujourd'hui on voit dans les manifs pro-palestiniennes Greta Thunberg avec le drapeau palestinien, qui est des trucs normalement c'est la perte de contrôle. Mais tout ça veut dire qu'on est dans un monde occidental dont le pouvoir a tellement menti par rapport aux promesses des Lumières qui n'ont pas été tenues, qu'ils ont mis des stratégies perverses en place qui les dépassent et qui créent quand même un chaos idéologique et in fine un chaos qui devient un chaos social et un chaos dans la vie quotidienne. Hein. Paris aujourd'hui est une ville beaucoup plus dangereuse que Moscou. On a des problèmes de...
Tout cela dit.
Et même aujourd'hui, vous avez vu, il y a des gens qui ont coupé l'électricité dans une région de France aujourd'hui. Mmh. On a des phénomènes de gauchistes extrêmes qui n'ont pas compris au départ qu'ils étaient des idiots utiles et qui ont atteint une certaine autonomie et qui sont... Comme il n'y a plus d'objectifs politiques et il n'y a plus même de possibilités politiques, ils sont dans une espèce de démarche comme les possédés de Dostoïevski, là. Mmh. C'est-à-dire, c'est des nihilistes purs. Avec une dimension pathologique post-adolescente, parce que ça touche des gens très jeunes, qui ont beaucoup d'énergie vitale, testostérone. Et ça, aujourd'hui, on aura un vrai problème dans les années à venir, si on reprend le pouvoir, de rééducation de cette jeunesse folle par le LGBT, par la délinquance. Une délinquance qui n'a pas d'objectif. C'est pas un engagement politique révolutionnaire. On a empêché la jeunesse d'avoir des objectifs. Des objectifs qui auront du sens, la révolution sociale, etc. Et en fait, j'ai écrit aussi là-dessus, c'est les trois temps de ce qu'on appelait « rebelles sans cause ». Vous savez, c'est le modèle de James Dean. Tu sais, il ne fallait pas que le rebelle ait une cause. Parce que sinon, il aurait pu se tourner vers le prestige de l'URSS qui avait libéré les camps de concentration, etc. Donc on a vu le rebelle sans cause. Après, le rebelle avec une cause, mais on lui a donné comme cause... le gauchisme un peu idiot. Et aujourd'hui, on a le rebelle contre soi, c'est-à-dire la mutilation. Ça a commencé par le tatouage. Au début, c'était les cheveux longs et les vêtements. Après, c'est la peau avec les tatouages. Et maintenant, on est sur la mutilation sexuelle. Parce que le but du LGBT, c'est la double stérilisation. Puisqu'en fait, un homme transgenre est une femme qui ne peut plus enfanter et une femme transgenre est un homme qui ne peut plus féconder. Donc, on est là sur cette... Ce troisième temps du rebelle qui est le rebelle contre soi. C'est-à-dire on pousse la jeunesse en fait à une forme de suicide. Hein, c'est-à-dire d'ailleurs...
C'est intéressant comme le concept.
J'ai travaillé là-dessus pour des étudiants que j'aide dans des doctorats parce que j'essaye de lutter contre l'influence à l'université. Et ce qu'il faut savoir, en Suisse comme en France, le corps enseignant est post-68ard, hein, et ils sont totalement LGBT. Ils sont sur la liberté, vous savez, cette idée de liberté hors sol, là. Et moi, quand j'essaye d'aider des étudiants à comprendre la jeunesse, le côté psychiatrique social de la jeunesse actuelle, qu'on voit beaucoup en Suisse, où ils sont très riches.
Oui, ça se voit sans doute moins en Russie, parce que Poutine fait le travail, mais il y a un terrible travail de description par la psy. Par la psychopathie sur la jeunesse occidentale, hein, qui normalement est censée être la relève. Et ça va être un chantier énorme, parce que ce travail de destruction a atteint un très très haut niveau. Hein. Et notamment la Suisse, qui a un très haut standard social, c'est le pays le plus riche du monde, pratiquement par habitant. Hein. Sur la jeunesse, il y a un travail de destruction. On le voit notamment par les métiers en Suisse. Vous avez la finance et la psychologie, la pédiatrie. Vous voyez, c'est les deux métiers phares. Tous les enfants en Suisse sont accompagnés psychologiquement et psychiatriquement, alors que normalement, ça ne devrait pas être une nécessité. Et ça, ça va être terrible si jamais on reprend le pouvoir, d'essayer de faire le chemin inverse de cette destruction de la jeunesse. Et je crois que le système de domination totalitaire, c'est ce qu'il fait. Il attaque les enfants très, très profondément. Et ça, c'est très, très horrible.